Tech & Co, la quotidienne sur BFM Business.
Voilà Tech & Co, la quotidienne depuis Vivatech. On va terminer cette suite d'émissions, encore une fois en parlant de robotique, avec mon invité Jérôme Monceau est là. Bonsoir Jérôme.
Bonsoir François.
Directeur et fondateur de Enchanted Tools, qui est l'un des spécialistes français de la robotique de service. Comme quoi on a de belles pépites hein, bien évidemment. Et si vous êtes avec nous à la télé, vous pouvez voir Mirokai qui nous fait des petits coucous. Voilà ce robot tout mignon, Jérôme, dont vous êtes fier bien sûr, parce que oui. Ça fait des années qu'on suit ensemble sur BFM Business dans Tech & Co les avancées de Miroka, et on le voit hein, qui se perfectionne de génération en génération.
Ah oui, là c'est un moment un peu particulier parce qu'on est en train de passer d'une version prototype pré-industrielle à la version officielle qui va être certifiée. Donc là on vient de l'annoncer, on a la V1 qui est arrivée et c'est un gros soulagement pour toute l'équipe et un travail énorme qui vient d'être abouti.
Ça fait depuis combien d'années que vous travaillez sur ce robot ?
Alors ça fait 4 ans qu'on est dessus, on a lancé l'entreprise en fin 2021, on est parti très très vite, on a levé un total de 50 millions, on a constitué une équipe quand même un peu solide derrière tout ça, sur l'héritage français dans cette forme de robotique.
Oui, d'ailleurs. Que vous êtes un ancien d'Aldébaran.
Voilà, hein. C'est ça, et donc moi, mais aussi plein d'ingénieurs, plein d'écoles, plein de laboratoires de recherche, on s'est mobilisé autour de ce projet et qu'il a aujourd'hui atteint la V1 et donc la certification et donc le scale.
4 ans pour faire un robot, c'est court mais long finalement, on ne se rend pas trop compte, on n'a pas de l'échelle bien sûr, c'est compliqué d'arriver à faire ça aujourd'hui. Quels ont été les moments les plus difficiles?
Alors le proto ça va très très vite au début, surtout quand on sait ce qu'on veut faire. En 12 mois on a réussi à avoir le premier proto. Après il faut reprendre l'architecture parce qu'il ne suffit pas d'avoir un proto, il faut faire un produit, et donc ça nous a pris 18 mois et puis après on a eu une autre itération par-dessus ça pour aller toucher ce qu'on appelle le design for manufacturing, c'est réduire les coûts de production, réduire faciliter la production, et puis maintenant reste la phase de la certification, donc vous savez, compatibilité électromagnétique et la sécurité des gens qui était une étape importante. Donc on ne peut pas faire les de ça.
Il a été homologué, ça y est, ce robot?
Non, bientôt, cette année, oui.
Donc cette année, l'homologation va vous apporter quoi? C'est-à-dire que vous allez pouvoir librement le déployer
en Europe particulièrement, donc c'est Europe. Le marquage chez eux.
Okay.
On peut déjà le vendre à l'étranger, aux États-Unis, en Asie, sans cette certification.
Oui,
mais en Europe, bah, du coup, il faut cette certification pour pouvoir le vendre à plus grande échelle.
Et cette certification apporte quoi, en fait?
Elle apporte la garantie aux utilisateurs que le robot satisfait aux contraintes de sécurité et d'usage standard en Europe. Et donc ça permet d'avoir des assurances plus optimisées et puis une sécurité d'usage, une confiance.
Quand
c'est un produit européen.
Évidemment. Et ça arrive donc cette année, c'est ça?
Ça arrive cette année, oui.
Parfait. Quand on s'intéresse un peu au monde de la robotique, on est impressionné par les progrès qui ont été faits en électromécanique. Quand on voit aujourd'hui ce qu'arrive à faire, par exemple, la Chine avec Unichui, c'est dingue.
Oui.
On a une dextérité, des mouvements qui sont presque organiques de ces robots.
Oui.
Mais ils sont bêtes. Ils ne comprennent rien. Il faut les télécommander pour qu'ils fassent des choses ou alors les synchroniser pour des danses, pour des manifestations, etc. etc. Est-ce qu'il y a de l'intelligence dans Mirokai?
Alors, c'est exactement le sujet. C'est exactement le combat. Ce que je rappelais il y a peu de temps, c'est que mon objectif, c'est pas de vendre des robots, c'est que les robots soient utilisés. C'est le nombre de minutes d'usage qui nous intéresse. Aujourd'hui, on en cumule 600 000 minutes d'usage. Donc ça représente 416 jours continus d'utilisation de la plateforme. C'est énorme. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a des gens qui l'utilisent. Je veux dire, c'est pas juste de la danse ou des passages télé. C'est vraiment des gens dans des hôpitaux, dans des institutions qui accompagnent les personnes handicapées, dans des maisons de retraite, dans des hôpitaux pour le traitement du cancer chez l'enfant, eh bien, qui utilisent de manière quotidienne cette plateforme. Et pour ça, il faut de l'intelligence. Il faut de l'intelligence, de la maniabilité, de l'utilisabilité, mais il faut aussi de la pertinence du robot, qu'il réponde au bon moment, qu'il aille au bon endroit et qu'il prenne les bonnes choses.
Ça veut dire que votre robot a un petit cerveau quand même, c'est-à-dire qu'il Est-ce qu'il peut être autonome ou est-ce qu'il faut encore que quelqu'un soit derrière lui pour le piloter?
Oui, donc l'autonomie ultime, c'est l'autonomie où le robot se débrouille tout seul, il n'y a plus personne autour et il fait son job.
On le branche, il sait ce qu'il doit faire, il répond aux simulations qu'on peut lui apporter.
Voilà. Alors, l'autonomie ultime, c'est pas encore disponible nulle part dans le monde.
Et nous, c'est pas prêt de l'être, visiblement.
Ça demande un énorme travail. Surtout, il faut aussi travailler sur nous, changer nos habitudes de fonctionnement pour accepter cette autonomie. Nous, ce qu'on fait, c'est de l'autonomie collaborative. Et honnêtement, moi, je la trouve plus intéressante. C'est-à-dire, mon sujet, c'est pas forcément de décider tout seul ce que je dois faire. Mon sujet, c'est d'aller voir les aides-soignants, d'aller voir le personnel sur place, de poser des questions et de déterminer avec eux quelle est la bonne chose à faire. Ça, c'est de la collaboration et ça s'inscrit dans une logique de non-substitution et de non-remplacement des humains, mais plutôt d'augmentation de leur efficacité et de leur impact sur leur environnement.
Mais aujourd'hui, par exemple, les premiers tests que vous faites avant l'homologation en Europe, aux États-Unis par exemple, qu'est-ce que fait Mirokai dans un hôpital ou les aéroports?
Alors c'est variable en fonction des endroits où on les déploie. On a des endroits, donc l'ICM, on en parle souvent, où le robot il rentre dans le bunker de radiothérapie et donc là il est avec l'enfant au moment du traitement, ce qui permet d'éviter la sédation et donc de faire au final que un, il y ait moins de traumatisme et deux, beaucoup plus d'enfants qui profitent de la machine. Après ils vont donc après c'est un institut de
Et là il a des, excusez-moi je vous coupe, mais il a des interactions autonome avec l'enfant,
bien
ou est-ce
sûr.
Qu'il faut quand même quelqu'un derrière, je ne sais pas moi, une porte, une fenêtre, qui le pilote le robot?
Alors, il y a un peu des deux dans ce cas précis-là, c'est-à-dire avant de rentrer dans le bunker, on est en interaction libre avec l'enfant, mais à travers des prompts qui ont été faits avec des psychologues et avec toute l'équipe spécialisée dans l'accompagnement de l'enfant. Nous, notre boulot, c'est pas de se substituer à l'intelligence des médecins, et donc c'est au contraire de l'amplifier. Et puis une fois qu'on est dans le bunker, c'est un endroit qui est tellement maîtrisé, tellement codifié, que là, c'est un opérateur depuis le poste de contrôle qui reprend la main pour accompagner l'enfant. Et puis, il y a plein de scénarios en tout genre. C'est un milieu vraiment très extrême.
L'idée, c'est que petit à petit, Mirokai gagne en autonomie, c'est ça?
Oui.
Votre objectif, c'est quoi à 5-10 ans, par exemple?
Là déjà en ce moment on est en train de rassembler trois grandes fonctions, donc la fonction d'être en interaction libre avec l'utilisateur, la fonction de se déplacer en environnement social, c'est-à-dire avec des gens qui le prennent, qui le poussent, qui l'amènent à un endroit, qui lui disent d'aller là-bas, etc. Et de manipuler des objets en environnement social. Ça veut dire, je lui donne un objet, il prend l'objet, je prends un objet de sa main, je déplace un objet qu'il va prendre, enfin voilà. Et donc, on est en train de combiner tout ça dans la plateforme, ce qui va lui donner un premier niveau d'autonomie. Alors, on a volontairement simplifié des problèmes. On ne monte pas les escaliers parce que c'est trop dangereux. On ne prend pas tous les objets parce que les couteaux, c'est dangereux dans les mains des robots. On est dans des endroits safe, on veut garantir la sécurité des personnes, donc on est dans ce premier niveau d'usage. Et là aujourd'hui on est capable de démontrer une traction qui est incroyable. On a 2500 robots qui sont réservés par des lettres d'intention par nos clients, et là on vient de faire les pré-orders de la V1 et ça part très vite, donc on est très fiers de ça. Maintenant à 10 ans il y a pas mal de choses qui vont évoluer. On voit bien le grasping et la dextérité évoluent à une vitesse incroyable. Alors on atteint des pourcentages du genre 87% de réussite. C'est très bien 87% de réussite, mais c'est pas suffisant. Parce que quand on se plante 13% du temps avec un couteau dans la main, ça pose un problème.
Ouais,
donc nous, on a besoin que cette techno gagne en maturité. On accélère aussi de notre côté, de manière à pouvoir aller sur un deuxième niveau de manipulation et d'usage de la plateforme.
Est-ce qu'on arrivera un jour à avoir une interaction totale avec un robot autonome comme Mirokai, qui pourrait peut-être changer d'aspect d'ailleurs dans 10 ans ou 15 ans, qui soit à la maison, que je lui dise, est-ce que tu peux aller me préparer un café, me faire des pâtes à la carbonara, est-ce que tu peux me nettoyer le canapé, etc. etc. Alors, est-ce que c'est un fantasme? Où est-ce que vous y pensez?
Ah ben non, mais plus qu'on y pense, on y est là. On va vers ça. Le sujet, c'est consumer. C'est un des sujets. Nous, notre niche, c'est healthcare. On commence par s'occuper des gens, accompagner tout ça. Et progressivement, on va sortir de l'hôpital. Par contre, il ne faut pas vendre tout de suite tout type d'usage. Il faut essayer de cadrer ça, en particulier vers les personnes qui en ont besoin. Donc moi, ma cible, c'est les familles et les familles qui en ont besoin. Une personne âgée à la maison, un enfant handicapé à la maison, une personne qui a besoin d'assistance.
C'est la priorité, on va dire. ça.
Oui, c'est la priorité, c'est la pertinence. Parce que ramener une bière à quelqu'un, c'est cool, on a envie de le faire, etc. Mais est-ce que ça fait vraiment un business ? Voilà, nous, on a besoin d'asseoir notre business, de le fonder sur quelque chose qui est essentiel pour les clients. Et c'est pour ça qu'on a cette attaque famille qui en a besoin.
C'est l'IA générative qui va tout changer, qui va faire que le robot va comprendre ce qu'on lui dit.
Mais c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Là, aujourd'hui, on a un super partenariat avec Google DeepMind. On est Trusted Partner. On fait tourner les algos qui sont des algos non accessibles au public. Et ce qu'on voit, c'est fabuleux. Le robot, il est capable de comprendre son environnement. Il est pertinent dans le contexte.
Avec Google DeepMind, il arrive à quoi ? À voir son environnement, à comprendre ce qui se passe autour de lui ?
Oui, à le verbaliser et à comprendre la situation et à articuler les fonctions du robot, se déplacer, prendre un objet, dire quelque chose, en fonction du contexte dans lequel il se trouve. Donc ce qu'on a de plus en plus accès, et là on a besoin, c'est de la planification. Donc pour atteindre tel objectif, je dois faire telle action, puis telle autre, puis telle autre. Et ça, c'était pas accessible il y a un an, mais en un an, il s'est passé une révolution. Et puis il y a une deuxième chose qui est ultra importante, c'est ce qu'on appelle le vibe coding. Donc vous avez entendu parler,
oui, bien sûr.
Je vais interagir avec un ordinateur pour lui faire générer un programme. Mmh. Eh bien, le robot apparaît comme une ressource pour ce programme. Donc la personne qui va vibe coder, elle va pouvoir non seulement faire des programmes, mais des programmes qui s'exécutent dans le monde réel par l'intermédiaire d'interfaces sécurisées avec des guidelines éthiques qui sont quand même là, mais qui vont permettre d'amplifier le rôle des programmes qu'on génère.
Alors Google DeepMind est une boîte américaine, bien évidemment.
Oui.
Est-ce que la notion de souveraineté, le fait de se dire est-ce qu'on peut donner une intelligence européenne ou française à votre robot, c'est quelque chose d'important ?
Alors c'est ultra important, mais ce qu'il faut voir, c'est que quand on parle d'IA, c'est pas une IA. Des IA, il y en a plein. Déjà, rien que quand vous regardez dans le robot, il y en a qui tournent en embarqué. Aujourd'hui, on est très dépendant d'un cloud. Et quand on fait une machine qui se déplace comme ça, eh bien, on a des problèmes de temps de latence, on a des problèmes de connectivité.
De réseau, etc.
Et donc, du coup, ça casse l'usage. Mmh. Et il y a des endroits où on ne peut pas se permettre d'avoir ça. Donc, on doit viser de l'embarquer. Et pour avoir de l'embarquer, il faut spécialiser les modèles. Donc, ça veut dire que nous faisons des modèles et on appelle tous nos partenaires européens à produire des modèles. Et d'ailleurs, je pense qu'on aura des annonces d'ici la fin de l'année.
Et peut-être même au CES.
Et peut-être même au CES.
Merci beaucoup Jérôme, merci d'être passé par le plateau de
Tech & Co.
Ici à Vivatech, et un petit salut à Mirokai qui est toujours aussi mignon, il nous fait craquer. Merci beaucoup. Merci.